La Covidienne. Du lundi au jeudi, 30 minutes d'actu, virale et collégiale.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes de Radio Campus Angers. Dans la Covidienne, on est parti ensemble pour une nouvelle année d'actualité locale sur les ondes du 103 FM. Toute l'équipe de Radio Campus Angers commence bien évidemment par vous souhaiter une belle année, comme c'est d'usage. On espère que vous et vos proches vous portez bien et continuerez à vous porter bien tout au long de cette année, que l'on espère bien évidemment moins difficile que la précédente, et ce, eh bien, pour tous les secteurs qui continuent d'être touchés de plein fouet par cette crise. On exprime tout notre soutien avec les personnes les plus impactées. On pense à bien des milieux, on leur souhaite du courage et de la patience en attendant la reprise de leur activité. En attendant, nous sommes ensemble pendant une demi-heure pour continuer à discuter de l'actualité locale. Et ce soir, c'est Sarah qui s'est entretenue avec Marine Gillis, étudiante en histoire. Elle en est à sa troisième année de thèse à l'université d'Angers. Et le sujet de sa thèse, dans le cadre de sa thèse, elle s'est entretenue et elle continue de s'entretenir avec des militantes féministes des années 70, que ce soit en Bretagne ou en Pays de la Loire. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous propose d'écouter ça sans plus tarder. Très bonne émission.
Le MLF, Mouvement de Libération des Femmes, est créé en 1970 et constitue un mouvement féministe autonome qui prône la libre disposition du corps des femmes. Depuis cette décennie de la libération sexuelle, que sont devenus ces voix et ces corps qui militaient il y a 50 ans ? Eh bien, Marine Gillis s'est posé la question, rencontre avec une des voix qui résonne aujourd'hui. Bonjour Marine.
Bonjour.
Tu es doctorante en histoire à l'université d'Angers, tu travailles en ce moment ta thèse, un projet de 3 ans, et puisque c'est le sujet, dans un premier temps, comment tu définirais le féminisme, ou en tout cas, comment est-ce que toi tu ressens le féminisme ?
Alors, le féminisme pour moi, c'est lutter pour les droits des femmes d'abord, et puis c'est viser l'égalité dans tous les domaines. Voilà, après, moi je travaille plus spécifiquement sur la sexualité, et là il y a beaucoup à dire sur encore comment avoir des relations apaisées. C'est un engagement. Que j'ai depuis plusieurs années, et notamment au sein de l'association Archives du Féminisme. Et ça se traduit pour moi, dans mon militantisme actuel, par le fait de collecter la mémoire des femmes et des hommes qui ont un engagement féministe. Moi, mon sujet porte sur le féminisme des années 70, et là, il est assez divers. Il y a différentes tendances, et moi, j'explore un petit peu toutes ces tendances et la diversité des groupes durant toute la décennie 70 en Bretagne et en Pays de la Loire.
Oui, justement, j'allais revenir là-dessus. Tu t'intéresses aussi particulièrement à l'expérience de libération sexuelle dans ces mouvements-là et à cette époque-là. Est-ce que tu peux en dire un peu plus et aussi expliquer ce qu'est le MLF, le Mouvement de Libération des Femmes ?
Alors, moi, je travaille, le titre de ma thèse, hein, c'est l'expérience de libération sexuelle des militantes du mouvement des femmes en Bretagne et en Pays de la Loire. Donc la période, c'est 1970-1981, à peu près. Hein. Et en fait, la libération sexuelle, c'est... on en parle déjà bien en 1968, mais moi, j'essaie d'interroger cette notion. Qu'est-ce que ça veut dire pour les militantes ? Qu'est-ce que ça veut dire à un moment où l'avortement n'est pas légalisé, où la contraception n'est pas vraiment accessible avant 1973, parce que la loi Neuwirth est adoptée en 67, et il faut du temps avant de pouvoir appliquer les décrets qui ont été votés. Donc voilà, qu'est-ce que ça veut dire libération sexuelle quand on ne dispose pas entièrement de la maîtrise de son corps et de sa contraception. Qu'est-ce que ça veut dire aussi quand l'homosexualité est un sujet encore tabou et quand en fait libération sexuelle rime avec le plaisir des hommes et le fait que les femmes doivent être disponibles aussi pour le plaisir des hommes.
Dans ces années-là, le mouvement de libération sexuelle, est-ce qu'on se battait pour toutes les femmes et pour tous les corps et pas seulement pour une certaine catégorie de femmes comme on peut l'entendre souvent, c'est-à-dire blanches, cisgenres, non précaires, etc.
Alors oui, dans les entretiens que je mène, il est question des différents types de corps, qu'ils soient par exemple mains, ou gros, et au niveau de des questions d'intersectionnalité, alors ça se posait pas tout à fait en ces termes dans les années 70, mais il y avait déjà des réflexions entre qu'est-ce que la position sociale et qu'est-ce que la couleur fait au vécu. Et il y avait des groupes de femmes noires, dans ce que moi j'ai trouvé en Bretagne et en Pays de la Loire, pas ou très très peu présents dans ces deux régions, mais ça existait. Voilà, il y avait aussi toute une dimension internationale avec les groupes latino-américains, et il y avait beaucoup d'échanges et des revues qui pouvaient circuler. Donc voilà, moi après, dans les personnes avec qui je fais des entretiens, je n'ai pas eu de femmes dites racisées. J'ai eu que des femmes blanches, mais issues par contre de différentes classes sociales, que ce soit du monde agricole, du monde ouvrier ou des femmes qui ont fait des études supérieures.
Et justement, en Bretagne et Pays de la Loire, est-ce que tu as pu constater que ça a été à un moment des territoires où il y a eu beaucoup d'actions, beaucoup de regroupements, ou est-ce que justement c'est difficile et qu'il faut creuser ?
Alors, j'appréhendais un petit peu de ne pas trouver grand-chose sur la Bretagne et le Pays de la Loire, mais en fait, il s'est passé énormément de choses, et ça, c'est assez extraordinaire. Alors, c'est difficile de trouver des traces écrites. Là, j'ai vraiment été visiter plein de centres d'archives. Dès que je trouve quelque chose, je suis très, très heureuse. Mais avec les entretiens et ce que j'ai trouvé quand même, j'ai pu voir toute la diversité de la richesse des mobilisations au niveau local et puis les rassemblements au niveau plus régional et national. Après, moi j'étudie donc deux régions et en fonction du département, ce ne sont pas tout à fait les mêmes dynamiques. En Mayenne, c'est beaucoup plus difficile, enfin parler des MLF n'a pas de sens. En Vendée, il y avait un groupe pionnier féministe très très actif. À Nantes aussi, à Rennes, à Brest, voilà, il y a quand même dans les grandes villes une grande dynamique. Ça n'empêche pas qu'il y ait aussi eu des groupes femmes dans des zones un petit peu plus petites, un petit peu plus rurales. Mais là, c'est plus difficile à trouver. Mais il y a eu.
Concrètement, tu contactes des militantes des années 70 et tu t'entretiens avec elles. Comment est-ce que le contact s'instaure ? Comment les retrouver ? Et surtout, comment est-ce que tu es reçue après tant de temps aussi ?
Alors, j'ai commencé à Rennes avec grâce à Lydie Poré, qui a écrit un ouvrage sur le féminisme à Rennes. Donc j'ai eu mes premiers entretiens grâce à son carnet d'adresses. Et puis après, de bouche à oreille, grâce à la presse aussi, j'ai eu plusieurs articles dans Ouest France. Et en Mayenne, ça a bien marché comme ça. Donc des personnes m'ont contacté directement sur mon adresse mail. Et puis après, c'est en contactant les associations féministes, notamment le planning familial, Femmes solidaires, où là, je retrouve des militantes qui militent depuis les années 70. Mais quand ça se passe bien avec une ou deux, après ça ouvre à d'autres qui sont un petit peu rassurés de la démarche parce que ça se passe super bien en fait avec les militantes. Et donc c'est comme ça que certaines souhaitent finalement m'accorder un entretien. Après, certaines me disent qu'elles n'ont pas grand-chose à me raconter ou que c'est bien loin. Et finalement, quand j'allume le dictaphone ou la caméra, je rends compte qu'elles se souviennent de beaucoup de choses et qu'elles minorent beaucoup leur discours, mais en fait, après coup, quand elles se réentendent ou quand elles se lisent, elles disent « Ah bah oui, c'est intéressant ».
Et combien est-ce que tu as pu en rencontrer jusqu'à maintenant ?
J'en suis à un peu plus d'une quarantaine. Et là, je suis un peu sur la fin, mais j'ai encore des personnes qui me contactent, et pour l'instant, je continue, mais j'arrive sur la fin.
C'est peut-être difficile à dire comme ça, là, maintenant, mais est-ce que tu as une rencontre qui t'a peut-être plus marquée ou...
Toutes, c'est des rencontres tellement émouvantes que ça m'a donné une énergie en 2020. Ça m'a fait tenir malgré toutes les difficultés liées au confinement et tout ça. Des anecdotes, je peux en donner. Par exemple, le fait que j'ai été hébergée chez une quand j'ai fait mon périple à vélo de 3 semaines à la rencontre des militantes. certaines m'ont hébergé et puis je me suis retrouvée à faire une sieste de 3 heures, à me réveiller sans me rendre compte que ça faisait 3 heures, et des sardines grillées m'attendaient, ou c'était vraiment exceptionnel. Quand je suis hébergée chez les personnes, alors bon, en 2020, ça n'a pas été possible, mais en 2019, là, c'est des moments informels d'une grande richesse. Elles m'emmènent faire des tours en voiture pour me montrer un peu les environs. On fait des repas très, très joyeux. Ça peut arriver aussi des petites marches, des randonnées au bord de mer. J'en aurais tellement raconté que je ne peux pas faire un seul portrait. C'est tout exceptionnel.
Et justement, tu viens d'évoquer le vélo. C'est pas anodin, tu fais tous tes déplacements à vélo en ce qui concerne ta thèse. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça représente, le vélo ?
Alors, vélo et train, parce que des fois, c'est un peu difficile de tout faire à vélo. Pourquoi le vélo ? Parce que pour moi, c'était d'abord l'aventure. Je voulais vivre ma thèse vraiment comme une aventure. Et je n'avais pas de vélo avant. Hein. J'étais à Paris et puis je me dis, mais j'ai envie. J'ai une idée comme ça sur un coup de tête en plein mois de février. Dire, oh là là, j'aimerais bien faire un trip en vélo 3 semaines ou 1 mois comme ça, rencontrer une militante en Bretagne. Et puis l'idée ne m'a pas quittée. Et ça s'est tellement bien passé que le vélo, j'en suis tombée complètement amoureuse. Je ne peux plus m'en séparer. Je fais tout à vélo maintenant. Et ça fait partie un peu de ma démarche parce que je suis accueillie d'une façon plus spontanée, plus légère. Ça fait moins formel. Ça met à l'aise les personnes, ça les intéresse. Et du coup, c'est un enrichissement pour mes entretiens. Ils sont d'une qualité, je pense, un peu différente. Donc voilà, je n'ai pas lâché. Parfois, c'est un peu compliqué. Donc je fais, par exemple, quand j'ai eu un entretien à Port-Brié, c'est à 25 km de Laval, j'ai pris le train jusqu'à Laval et après, j'ai fait les 25 km par la forêt. Je me suis un peu perdue et je suis arrivée. Et la personne était toute enchantée de me voir arriver à vélo. Donc voilà, je continue après, même en hiver. Mais là, avec le Covid, ça a été un peu plus compliqué.
Et est-ce qu'il y a ce côté émancipateur aussi avec le vélo, ce côté de liberté, d'indépendance qui fait partie aussi du féminisme, mine de rien ?
Alors, je dirais oui et non, parce que l'émancipation, moi, je l'ai connue d'abord avec la voiture, quand j'ai mon permis il y a 10 ans, où là, je me suis sentie vraiment, je peux aller où je veux, sans contraintes, si ce n'est des contraintes financières. Je n'ai pas aimé conduire et le vélo, ça a été un peu une redécouverte parce que ça me permet d'aller plus loin et plus rapidement. Après, c'est le plaisir et je me sens de plus en plus affirmée dans ma démarche aussi grâce au vélo. Après, il y a quand même des contraintes et par exemple, moi, je ne maîtrise pas les réparations sur mon vélo et je me sens très... très mal par rapport à ça, je ne sais même pas changer ma roue, quand je dois régler ma siège, j'ai l'impression de faire quelque chose d'extraordinaire, et je me sens, petit à petit, là, j'ai contacté des personnes, et je vais participer jeudi prochain à un atelier mécanique avec d'autres filles, un collectif qui s'appelle Les Increvables, et que j'adore. Et ça va m'aider, je pense, à dédramatiser le bricolage parce que j'ai un parcours un peu difficile par rapport au bricolage. Il y a la confiance en moi.
Tu disais que tu travaillais avec les archives du féminisme et tu as pris l'initiative de filmer certaines militantes durant vos entretiens, avec leur consentement évidemment. C'est un travail que tu fais donc en parallèle de ta thèse. Pourquoi est-ce que c'est important de filmer quelques entretiens ?
Alors c'est important pour rendre accessibles ces témoignages à d'autres personnes. Parce que moi, les entretiens que je fais strictement dans le cadre de ma thèse sont anonymes. Je ne peux pas comme ça les déposer quelque part. Il y a des conditions de confidentialité très importantes. Et moi, je me suis dit, mais comment je peux faire écouter ces témoignages à d'autres ? Comment je peux partager ? C'est une question un peu d'éthique aussi. Et je me dis, mais je vais filmer. J'ai rejoint la commission audiovisuelle d'archives du féminisme. Et là, il y a eu un apprentissage technique. Et surtout, il fallait que je rassure les personnes. C'est pas évident hein, de témoigner face caméra, donc tout n'accepte pas. Mais ça me paraît important et aussi ça me permet de valoriser les témoignages un peu différemment. C'est-à-dire que les entretiens que je fais filmés durent entre 40 minutes et 2h30. Et après, je prends un extrait de tous les témoignages que je fais, j'en fais un montage pour faire un film. Et là, je projette ce film pour faire connaître ces témoignages et donner envie de les découvrir en intégralité quand ils seront déposés dans les différents centres d'archives. Donc voilà, et ça, ça fait beaucoup plaisir aux militantes, ça fait vraiment connaître la Bretagne et le Pays de la Loire, et je compte bien continuer.
À force de fouiller dans toutes ces archives qui existaient déjà, qu'est-ce que tu constates en termes de matière, de nombre d'archives, en termes d'ancienneté, d'accès aussi ou de mise en valeur ?
Alors ce que je constate, c'est que il y a des régions où, enfin des villes où les militantes se sont un peu organisées pour... pour donner leurs archives. À Nantes, par exemple, beaucoup ont donné au Centre des archives du féminisme. Mais d'autres, en fait, cette question de l'archive, elle n'est pas du tout évidente pour les militantes. Déjà, il n'y avait pas vraiment d'écrit à l'époque. Elles étaient beaucoup dans l'oralité. Et puis, elles n'ont pas eu le réflexe de garder avec les déménagements, tout ça. Et c'est grâce, parfois, à des chercheuses qu'elles se rendent compte de cette problématique et que certaines regrettent de ne pas avoir gardé et que d'autres disent « Ah, ben, j'allais jeter et finalement, je vais plutôt donner. » Voilà. Donc ça me paraît vraiment essentiel. Et les archives, ben moi j'en trouve à la fois dans des centres spécialisés, mais aussi dans les centres, les archives départementales ou municipales. Mais c'est beaucoup plus rare.
Quand on pense au grand mouvement féministe du coup des années 70 et au grand mouvement féministe d'aujourd'hui, tu dirais qu'il y a plus confrontation ou continuité ou les deux ?
Ben, je dirais qu'il y a les deux. Il y a continuité sur certaines problématiques comme le plaisir féminin, sur la sexualité. Je trouve que les choses n'ont pas tellement changé, mais elles ont changé en même temps, donc c'est un peu compliqué. Après, la continuité, elle est dans ce que les militantes arrivent à transmettre par leurs témoignages, mais aussi certaines organisent des choses. Et puis, en même temps, discontinuité dans la mesure où certaines thématiques ne sont pas forcément en accord avec certains courants féministes actuels. Et donc là, par exemple, certaines militantes se retirent de certains mouvements féministes parce qu'elles ne les comprennent plus et en même temps, elles veulent laisser la place aux jeunes. Donc c'est un petit peu ça que je constate. Certaines sont plus catégoriques, elles disent non, on ne comprend pas et on n'accepte pas certains positionnements actuels. Et d'autres disent, c'est la nouvelle génération, il faut laisser faire.
Des militantes qui ne se retrouvent pas dans cette notion d'intersectionnalité, est-ce que c'est ça la plus grosse différence avec avant ?
Non, je ne dirais pas que c'est ça, parce que l'intersectionnalité, beaucoup m'ont dit, nous en fait on n'utilisait pas ce mot-là, mais on en faisait. Quand on croisait lutte des classes, lutte des femmes, la question de la classe sociale était vraiment au cœur de beaucoup des groupes femmes en fait. Et sur la question, des femmes noires, c'était peut-être moins visible qu'aujourd'hui, enfin sans doute d'ailleurs, mais elle se posait quand même certaines questions, donc c'est pas absent dans les sources que moi je trouve, mais c'est moins présent. Mais elles ont quand même réfléchi à ça, quoi. Et ça dépend aussi de ce que faisait le groupe. Les groupes de conscience, quand elles se retrouvaient entre branches, elles n'allaient pas forcément débattre de ce que traversaient les femmes qu'on dit racisées aujourd'hui. Elles parlaient d'elles et puis uniquement d'elles, quoi. Et d'autres pensaient de façon plus large. Et puis il y avait parfois des rencontres aussi internationales. Il y avait des échanges à l'international. Donc forcément... Ce sont quand même des thématiques qu'elles ont abordées.
L'idée de thèse en général, entre avant et maintenant, est-ce que ta vision de la thèse a changé ?
Alors la thèse, c'était vraiment un rêve pour moi et je voulais la vivre dans de bonnes conditions, donc avec un contrat doctoral. J'ai mis un peu de temps, mais je l'ai eu. Et j'étais très très optimiste et moi je n'ai pas peur de la thèse dans un sens où je ne ressens pas de difficultés particulières. Je sais que j'ai les capacités et je m'éclate dans ce que je fais. On va dire que ce qui a un petit peu changé, c'est ma vision de l'après-thèse. Et je savais que ça allait être compliqué, mais là j'ai de plus en plus peur et ça me fait tellement peur que ça vient un peu gâcher mon plaisir quotidien de faire une thèse. Alors j'essaie de plus y penser parce que sinon ça devient trop dur en fait. Ça devient trop dur et je me dis bon, je vis mon rêve, j'essaie d'éviter de penser au lendemain et on verra bien ce qui va arriver, quoi.
Et toutes tes recherches, on peut les suivre sur ton site qui est ton carnet de bord en quelque sorte. Cet aspect intimiste, est-ce que c'est aussi un moyen de t'approprier justement l'idée d'une thèse ?
Alors ce carnet de recherche que j'ai appelé la recherche comme une aventure, parce que pour moi c'est vraiment une aventure à la fois intellectuelle mais surtout humaine, je l'ai créé pour les militantes parce qu'elles voulaient suivre l'avancement de mes recherches et je me dis bon, les mails ça va, mais je j'ai envie qu'elles voient les archives que je découvre, et j'ai envie en même temps de leur parler de mes petites aventures à vélo. Donc j'ai laissé pour les militantes, et puis petit à petit, en fait, ça m'a aidée dans ma recherche, puisque je prends parfois 3-4 documents d'infos d'archives sur une thématique, et j'en fais une petite analyse comme ça. Donc ça permet à la fois moi d'avancer dans mon travail, et en fait c'est une motivation, c'est comme si quelque chose devenait un petit peu concret, plutôt que de tout garder la rédaction à la fin. Et puis en fait c'est aussi pour moi un moyen de faire connaître les mouvements en Bretagne et en Pays de la Loire, pour un peu aussi décentrer le regard de l'histoire du MLF parisien. Voilà.
Aujourd'hui, tu fais en sorte de trouver et de laisser des traces de cette période. Quelles traces penses-tu qu'il restera du mouvement féministe post-MeToo en termes d'état d'esprit militant? Quels souvenirs on gardera de ce mouvement post-MeToo des années d'aujourd'hui?
Moi, ça me paraît vraiment compliqué de répondre à cette question. Peut-être la seule chose que je peux dire, c'est que dans les années 70, on les trouvait trop radicales, et qu'après, on a dit finalement, c'était les bonnes féministes. Et aujourd'hui, on sent un petit peu cette critique de radicalité, et peut-être que dans 30 ans, on trouvera que le mouvement MeToo était un bon féminisme. C'est le féminisme, quand il s'éloigne, il devient plus accepté socialement, dans ce que je lis dans les médias, en fait.
Comment est-ce qu'on peut suivre ton travail si les personnes qui nous écoutent sont intéressées?
Alors, j'ai un compte Twitter, Marine Gélis, tout simplement, et j'ai mon carnet hypothèse, donc c'est l'aventure.hypothèse.
Et l'on remettra évidemment les liens vers le travail de Marine Gélis sur la page de cette émission. Merci à Sarah pour cette interview. Quant à nous, on se retrouve dans quelques instants pour la fin de cette émission. Ça sera juste après Satellite Jockey, et le titre, c'est Paix Sociale. Retour sur les ondes de Radio Campus Angers dans le sous-marin. Nous arrivons à la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivie. Vous pourrez la retrouver en podcast ainsi que toutes les autres sur le www.radiocampusangers.com. Je vous dis à demain pour une nouvelle émission d'actualité locale. Ce soir, retrouvez des rediffusions de l'Artichaut suivi de votre soirée Dub Reggae Roots. Ça commence comme chaque lundi par Mélodub et c'est suivi de Bamboo Station. Très belle soirée sur le 103 FM. À demain.